Je suis de ceux qui ne savent vraiment ce qu'ils pensent que lorsqu'ils l'ont écrit. J'ai donc passé la majeure partie de ce week-end à prendre des notes sur ce que j'avais vu, fait et prévu de faire à Derry. Mes notes se sont amplifiées pour finir par englober un exposé des raisons m'ayant conduit en premier lieu à Derry. Et le dimanche venu, je me suis avisé que j'avais entrepris un travail trop vaste pour un petit carnet de notes et un stylo bille. Le lundi, je suis donc sorti m'acheter une machine à écrire portative. Mon intention était de me rendre au magasin de fourniture de bureau le plus proche. Mais mes yeux se sont posés sur la carte de Chas Fratty sur ma table de cuisine, et c'est donc là que je suis allé. Le monde-piété, situé sur East Side Drive, occupait une superficie presque aussi vaste qu'un grand magasin. La porte était surmontée des trois boules d'or traditionnelles, mais il y avait aussi autre chose. Une sirène en plâtre battant de la queue et clignant de l'œil. Celle-ci, exposée au regard public, portait un soutien-gorge. Fratty n'était pas là, mais j'ai néanmoins pu faire l'acquisition pour $12 d'une formidable Smith Corona. J'ai dit au vendeur de faire savoir à Mr. Fratty que George, le gars de l'immobilier, était passé. « Avec plaisir, monsieur. Voulez-vous me laisser votre carte ?»« Merde, il faudrait que je pense à m'en faire imprimer. » Un saut au magasin de fourniture de bureau de Derry s'imposait donc, en fin de compte. « Ah, je les ai laissés dans mon autre veston. Mais je pense que Mr. Fratty se souviendra de moi. Nous avons bu un verre ensemble au Lamplighter l'autre soir. » Cet après-midi-là, j'ai encore étoffé mes notes. Je me suis habitué aux avions atterrissant au-dessus de ma tête. J'ai pris mes dispositions pour me faire livrer le journal et le lait. Imaginez, des bouteilles en verre épais remplies d'un breuvage incroyablement crémeux déposées sur le pas de votre porte. Tout comme la racinette de Frank Anicetti, ce lait avait une saveur incomparable. La crème était encore meilleure. J'ignorais si la crème artificielle avait déjà été inventée, mais je m'en fichais. Je n'en aurais pas voulu pour un empire, pas avec de tels produits à portée de main. Les jours s'écoulèrent. Je lus et relus les notes de Hal Templeton sur Oswald, jusqu'à en connaître de longs passages par cœur. Je me rendis à la bibliothèque pour m'informer sur les meurtres et les disparitions qui avaient empoisonné Derry dans les années 1957 et 1958. J'y recherchais des articles sur Frank Dunning et ses célèbres sautes d'humeur, mais n'en trouvais aucun. S'il avait fait l'objet d'arrestations, cela n'était pas parvenu jusqu'à la colonne des faits divers du journal, généralement de taille respectable, et qui occupait une pleine page le lundi, lorsqu'elle faisait le résumé complet des affaires du week-end, dont la plupart se produisaient après la fermeture des bars. Le seul article que j'ai trouvé sur le père du concierge concernait une action de bienfaisance en 1955. Cet automne-là, le marché central avait remis 10% de ses bénéfices à la Croix-Rouge, pour l'aide aux populations sinistrées après le passage sur la côte est des ouragans Connie et Diane, qui avaient tué 200 personnes et causé de vastes inondations en Nouvelle-Angleterre. On y voyait une photo du père de Harry remettant un chèque géant au responsable régional de la Croix-Rouge. Dunning affichait son fameux sourire de star de cinéma. Je ne suis pas retourné faire mes courses au marché central, mais pendant deux week-ends, le dernier de septembre et le 1er d'octobre, j'ai suivi le boucher préféré de Derry après sa demi-journée de travail du samedi au rayon viande. J'avais loué pour ce faire de banales Chevrolet Hertz à l'aéroport. La Sunliner me paraissait un petit peu trop voyante pour une filature. Le premier samedi après-midi, il s'est rendu à un marché aux puces à Brewer, à bord d'une Pontiac qu'il gardait dans un garage loué au mois et utilisé rarement pendant la semaine. Le dimanche suivant, il est passé à sa maison de Cossett Street prendre ses enfants pour les emmener à une double séance Disney à l'Aladin. Même de loin, Troy, l'aîné, avait l'air de s'ennuyer ferme, autant à l'entrée du cinéma qu'à la sortie. Dunning n'est pas descendu de voiture, ni à l'aller ni au retour. Il a klaxonné pour prévenir les enfants de son arrivée et les a déposés sur le trottoir au retour, les suivant des yeux jusqu'à ce qu'ils soient tous les quatre à l'intérieur. Il n'est pas reparti immédiatement, toutefois. Il est resté assis à fumer une cigarette au volant de sa Bonneville, qu'il avait laissé tourner au ralenti, espérant peut-être que la belle Doris daigne venir lui parler. Quand il était clair qu'elle n'en ferait rien, il a tourné dans l'allée d'un voisin et filé en faisant crisser assez fort ses pneus pour qu'il s'en élève un peu de fumée bleue. Je me suis tassé sur le siège de ma voiture de location, mais j'aurais pu m'en dispenser. Il n'a pas regardé dans ma direction. Et quand il a été assez loin dans Wycham Street, je l'ai suivi. Il a ramené sa voiture au garage et s'est arrêté au Lamplighter pour avaler une seule bière au bar presque désert. Puis, tête baissée, il est remonté d'un pas lourd vers la pension de famille Edna Price sur Charity Avenue. Le samedi suivant, 4 octobre, il a emmené ses enfants assister au match de football à l'Université du Maine à Orono, à une cinquantaine de kilomètres. Je me suis garé dans Stillwater Avenue pour attendre la fin du match. Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés au 95er pour dîner. Je me suis garé tout au bout du parking en attendant qu'ils sortent, méditant sur la vie des détectives privés qui doit être d'un ennui mortel malgré ce que les films et les romans policiers voudraient nous faire croire. Lorsque Dunning a ramené ses enfants à la maison, le crépuscule gagnait Cossett Street. Troy avait clairement plus apprécié le football que les aventures de Cendrillon. Il est sorti de la Pontiac de son père avec le sourire et en agitant un fanion des ours noirs. Touga et Harry aussi avaient des fanions, et ils semblaient encore très excités. Ellen, moins. Elle dormait un poing fermé. Dunning l'a portée jusque sur le perron. Cette fois, Mrs. Dunning a fait une brève apparition, juste le temps de récupérer sa fille. Dunning a dit quelque chose à Doris. Sa réponse n'a pas semblé lui plaire. La distance était trop grande pour déchiffrer son expression, mais j'ai vu qu'il lui agitait le doigt sous le nez en parlant. Elle a écouté, secoué la tête, puis s'est détournée pour rentrer. Il est resté planté là une ou deux secondes, puis il a ôté son chapeau et l'a claqué contre sa jambe. Tout ça était intéressant et révélateur de leur relation, mais sans grande utilité. Ce n'était pas ce que je recherchais. Je l'ai obtenu le lendemain. Pressentant que même dans une voiture de location brun foncé qui se fondait pratiquement dans le décor, je courais le risque de me faire repérer, j'avais décidé de me limiter à deux passages de reconnaissance le dimanche. Je n'ai rien vu au premier, et me suis dit que Dunning avait choisi de rester chez lui pour la journée. Le temps avait viré à la grisaille et à la pluie, et il devait probablement regarder le sport à la télévision avec les autres pensionnaires en déchaînant une tempête de fumée. Mais je me trompais. Comme je roulais dans Wycham pour mon second passage, je l'ai vu qui se dirigeait à pied vers le centre-ville, vêtu ce jour-là d'un jean bleu, d'un blouson et d'un chapeau de feutre à large bord. Je l'ai dépassé et suis allé me garer dans Main Street, à une rue environ de son garage. 20 minutes plus tard, je le suivais hors de la ville en direction de l'ouest. La circulation était fluide et je restais bien en arrière. Sa destination s'est révélée être le cimetière de Longview, 3 kilomètres après le cinépark de Derry. Il s'est arrêté au stand de fleurs d'en face et en passant devant, j'ai vu qu'il achetait 2 corbeilles de fleurs d'automne à une vieille dame qu'il a abrité sous son grand parapluie noir pendant la durée de la transaction. Dans mon rétroviseur, je l'ai vu déposer les fleurs sur le siège passager de sa voiture, remonter au volant et emprunter la route d'accès au cimetière. J'ai fait demi-tour pour revenir à Longview. C'était un risque, mais je devais le prendre, car cet épisode s'annonçait prometteur. Excepté 2 camions de travaux chargés de matériel de terrassement abrités sous des bâches et une vieille camionnette qui semblait rescapée de la guerre, le parking était désert. Aucune trace de la Pontiac de Dunning. J'ai traversé le parking et continué sur l'allée gravillonnée donnant accès au cimetière, lequel était immense et s'étendait sur plus d'une 10 hectares vallonnés. Il était sillonné d'allées perpendiculaires à l'allée principale. Du brouillard montait des vallons et la bruine forcissait, se changeant en pluie. pas vraiment le meilleur jour pour visiter ses chers disparus, et Dunning avait le cimetière pour lui tout seul. J'ai facilement repéré sa Pontiac garée à flanc de colline dans l'une des allées latérales. Quant à lui, il était en train de déposer les paniers de fleurs devant deux tombes contiguës. J'ai supposé que c'était celle de ses parents, mais je m'en fichais, à vrai dire. J'ai fait demi-tour, le laissant à son isolement. Le temps que je rentre à mon appartement d'Harris Avenue, la première grosse averse d'automne s'abattait sur la ville. Dans le centre, les eaux gonflées du canal devaient gronder, et l'insolite bourdonnement que l'on percevait à travers le béton dans la ville basse devait être plus audible que jamais. L'été indien semblait avoir pris fin. De ça aussi je me fichais. J'ai ouvert mon carnet, l'ai feuilleté presque jusqu'à la fin avant de trouver une page blanche, et j'ai écrit « 5 octobre, 15h45, Dunning Cemetery, Longview. Fleurs sur tombe. Parents. Pluie. » J'avais ce que je voulais.